Chapitre 14. Depuis 2 jours, Simone était plus taciturne. Tout l'agaçait, tout la frustrait. Ses filles la dérangeaient avec leur babillage incessant. Elle aurait voulu faire un saut dans le temps pour éviter la journée qui débutait. « Une chance que tu vas à l'école, Philo », balança-t-elle sèchement à son aîné le matin du 15 octobre, « parce que t'es un vrai moulin à parole. » « Un moulin! » rigola l'enfant alors que sa mère soupirait. Se pressant pour enfiler ses bottes de cuirette brune, l'enfant mit son bonnet et son manteau chaud. La veille, une première neige s'était déposée sur le sol de la baie, aux grands dents des adultes et au plaisir des petits. Quand l'hiver commençait, à Lens-à-la-Joye et dans les villages de Gaspésie, beaucoup d'hommes se voyaient dans l'obligation de partir pour les chantiers de l'île d'Anticosti ou d'aller travailler pour la Robin, à la réparation et à la confection de voiles et de filets. Ceux qui restaient au village poursuivaient parfois la pêche dans la baie jusqu'à la formation des glaces. Heureusement pour Simone, son époux n'était pas contraint à l'exil hivernal. Quand la porte se referma sur sa fille, qui courut rejoindre son amie Marie-Joseph pour ensuite se diriger à pied à l'école, 1 mile à l'ouest, Simone s'installa à la table pour un deuxième thé. Horace était parti nettoyer le poulailler et nourrir leurs animaux. Elle lui avait promis d'aller le rejoindre après sa vaisselle. « J'ai juste une autre tâche à faire ce matin, par contre », l'avait-elle informée sans préciser la nature de celle-ci. « Prends ton temps, ma fille, j'ai rien d'autre à faire. » Si j'avais pas si mal au dos, je continuerais à fendre du bois, mais il va falloir que je saute une journée, sinon je vais revenir à quatre pattes. » Le visage tourné vers la fenêtre du salon, Simone profita du silence de Béatrice, qui jouait calmement avec une poupée de chiffon, pour laisser la mère au loin calmer son tourment. Perdue dans ses pensées, elle revisitait les plus beaux moments de la vie de son fils. 5 ans aujourd'hui, mon Éloi. Bonne fête, mon gars. Murmura-t-elle, les paupières gonflées d'eau. Elle laissa les larmes couler sur ses pommettes saillantes, le menton tremblant. Repoussant sa tasse de thé, elle déposa sa tête sur ses avant-bras repliés sur la table. Elle pleura sans honte, consternée de voir qu'après 4 mois, son âme était toujours aussi brisée. « Comment je vais faire, mon gars, pour passer à travers cette journée? Même s'il y a des matins moins difficiles, t'es toujours dans mon cœur. » Je suis en manque de ton odeur, de tes bras autour de moi. C'est si dur. » En plus de cette souffrance épouvantable générée par l'absence de son fils, la jeune mère devait tenter de ne pas songer au dernier moment d'Éloi dans les eaux glaciales du golfe. Parfois, elle frissonnait d'horreur quand elle réalisait à quel point son garçon avait dû avoir peur, avait dû hurler avant de s'enfoncer au fond de la mer au terme d'une bataille impossible à gagner. Les cauchemars avaient hanté ses nuits, les premières semaines après la tragédie. Une montée de rage l'envahit de nouveau, en songeant que la responsable de cet indicible drame était sa sœur jumelle, celle sur qui elle avait toujours pu compter. Secouant son corps pour se donner de l'énergie, Simone essuya ses larmes et releva et glissa ses pieds dans ses pantoufles de cuir. Elle jeta un coup d'œil sur Béatrice, qui babillait maintenant dans un charabia incompréhensible. « Maman va s'habiller, après on va sortir. »«
Yortir. »
Simone fit un sourire triste et se hâta d'aller revêtir une jupe de laine grise. Le poêle avait beau chauffer sans arrêt, elle frissonna un peu dans sa chambre. Son chandail à gros col beige était usé à la corde, mais elle n'en avait cure. En dessous de son manteau d'hiver, personne ne remarquerait ce détail. De toute manière, là où elle prévoyait aller, il n'y aurait pas un chat. Quand elle revint dans la cuisine, sa fillette s'approcha de sa démarche vacillante de bébé de 14 mois en levant les bras.
« En tout béatis. » »«
Oui, viens mettre ton manteau. » La gamine avait le visage rond comme une lune et de fins cheveux bruns. Elle avait les mêmes yeux que son grand frère. Et lorsqu'elle fixait sérieusement sa mère, comme en cet instant, cette dernière savourait ce petit bonheur de toujours retrouver une parcelle d'Éloi dans sa maison. Quand la mère et la fille furent vêtues chaudement, Simone prit la petite dans ses bras et sortit, en s'assurant de bien refermer la porte. La veille, Philomène n'avait pas vérifié en partant pour l'école et la porte s'était ouverte à la volée sous une grosse bourrasque de vent. Heureusement, Horace s'était empressé de la refermer avant de solidifier le pêne. Il n'était pas encore 9 heures du matin et le ciel lourd laissait présager une autre bordée de neige. Les nuages bas s'accrochaient aux crêtes des montagnes derrière le village. Brrr! Simone avait toujours aimé la saison froide, mais depuis la mort d'Éloi, elle avait l'impression de ne jamais arriver à se réchauffer, même lorsque le mercure était à son plus haut en juillet et en août. Comme si, dans ses veines, le sang avait été remplacé par un liquide glacial. La nuit, elle collait son corps contre celui de Tom afin de récupérer un peu de sa chaleur. Arrivée à l'église, la jeune femme déposa Béatrice sur le sol et lui donna la main. « Viens, on va aller voir Éloi. » Le petit cimetière à flanc de montagne était parsemé de pierres tombales, dont certaines avaient vu leur épitaphe disparaître au fil des années. Autour des allées recouvertes d'une couche de neige, les sépulcres étaient modestes. Béatrice s'amusait à s'agripper sur les pierres, sans que Simone y trouve à redire, trop omnubilée par celle d'Éloi, toute blanche et pure. Arrivée devant l'endroit où son garçon était enterré, la mère se mit à respirer très fort en plaçant les paumes de ses mains l'une contre l'autre sous son menton. Éloi Joseph Laviolette, fils aimé de Simone Laviolette, né Gérard, et Tom Laviolette. Si petit, si doux, si tôt. 15 octobre 1929, 15 juin 1934. Oh, mon bébé, mon Éloi d'amour. Bonne fête. Je m'ennuie tant. Je t'espère toutes les nuits. Tu habites mes pensées et mes rêves. Donne-moi la force, je t'en prie, donne-moi la force de continuer. Simone s'écroula sur le sol, malgré la neige et le froid. Elle plongea sa tête dans ses mains en oubliant sa fillette qui s'amusait derrière, inconsciente du drame vécu par sa mère. En chuchotant, la femme récita des sanglots dans la voix. « Mon Éloi, te voilà près des étoiles. Te voilà à toucher le soleil. La vie t'a arraché à moi. Mon petit gars, j'ai tant aimé être ta maman. Un jour, promis, j'irai te retrouver et nous voyagerons ensemble sur le plus doux des nuages. » Simone sentit une mitaine humide se glisser dans son cou. Béatrice, arrivée près d'elle, appuya son petit corps d'enfant contre le dos de sa maman. Elle l'entoura de ses bras et son souffle chaud caressa la joue de sa mère. Cette dernière agrippa la main et laissa éclater sa peine devant ce petit visage confus.
« Pourquoi, Seigneur, pourquoi, Éloi ? »
cria-t-elle en levant les yeux vers le ciel.
« Maman ? » chuchota l'enfant effrayé. « Ça va, ma fille, ça... Oh !»
Simone voulut rassurer Béatrice, mais elle venait d'apercevoir, cachée contre le côté de la pierre blanche, un petit camion de bois. Elle comprit, en prenant l'objet dans ses mains, que Tom avait aussi pensé à l'anniversaire d'Éloi. Pourtant, la veille, lorsqu'elle avait chuchoté « Demain, c'est le 15 octobre », son époux avait crispé la mâchoire et refusé de la regarder. Tom avait dû venir porter le camion au petit matin ou le soir précédent, en souvenir de son enfant. Soupirant avec tristesse, la femme redéposa l'objet où elle l'avait pris. Son mari et elle n'avaient plus jamais reparlé de la tragédie. S'ils partageaient le même malheur, Simone craignait parfois que son époux n'en vienne à la détester elle aussi. « C'est quand même moi qui ai permis que tu dormes chez Maddy. Pourquoi est-ce que je t'ai pas gardé avec nous cette journée-là, mon gars? » Mais malgré toute sa colère, Simone savait que l'idée que sa jumelle soit aussi irresponsable ne l'avait jamais effleurée. Pourtant, les regrets et les remords ne la quittaient plus. « C'est de ma faute. J'aurais pas dû me plaindre de mes nuits sans sommeil, mais oh, mon garçon, comment j'aurais pu imaginer? » Après une quinzaine de minutes, le visage rougi par le froid et par les pleurs, Simone se releva péniblement, vidée de toute énergie. Sa fille s'était levée contre elle et la femme caressa les grosses joues rondes alors que les yeux de Béatrice se fermaient doucement. Elle repoussa une mèche de cheveux bruns qui sortait du bonnet de laine de son enfant et murmura « Dis au revoir à ton grand frère, ma chérie. On reviendra, Éloi. À bientôt. »«
À bientôt, Éloi, »
imita l'enfant en agitant sa petite main couverte d'une mitaine trop grande. Le pire moment de l'année pour plusieurs villageois était lorsqu'ils devaient s'asseoir avec Gaston Taillefer afin de régler leurs comptes. Certains, parmi les plus pauvres, avaient parfois menacé d'aller vendre leur morue ailleurs, mais tous s'étaient résignés.
À quoi ça sert? Grogna-t-il. Tous les marchands de la Gaspésie ont copié leurs prix sur ceux de la Robin.
Mais quand, en plus, Gaston osait refuser certains poissons sous prétexte que la qualité n'était pas au rendez-vous, alors là, la grogne s'installait au village. Tel un color, le marchand enfonçait son doigt dans la chair pour ensuite frotter la morue avec une brosse afin de faire apparaître la poudre de sel. Plusieurs raisons amenaient Gaston à classer les morues dans la catégorie inférieure. Trop graisseuses, brûlées par le soleil, trop molles, mal tranchées ou encore humides, etc. Quelques pêcheurs se trouvaient alors avec une colonne de dettes toujours plus élevée. Ceux-là n'avaient pas le choix de s'exiler pour travailler ailleurs tout l'hiver. Omer Veillette avait bien essayé de marchander ses quintaux à la fin de sa saison de pêche, mais il devait se rendre à l'évidence. « Me voilà encore obligé d'aller au chantier », se plaignait-il à Tom et Freddy, qui venaient de déposer leur dernière pêche chez le marchand. « C'est pas juste. Gaston donne quasiment rien pour nos poissons. En plus, il dit que j'en ai un paquet qui sont juste bons à être jetés. Je suis sûr que la Robin va me les prendre. »
Tom jeta un regard entendu à son beau-frère. Les deux connaissaient le caractère géniard et peu vaillant du mari Géraldine. Mais alors que Freddy avait l'habitude de se moquer d'Omer, il résista cette fois à la tentation, en sachant fort bien que l'autre en profiterait aussitôt pour ramener sa femme sur le tapis. Le lendemain des funérailles des Lois, le mari de Géraldine avait même offert à Tom de le remplacer sur la barge pour éviter un malaise. Il s'était proposé, sous l'insistance de son épouse, même si l'idée de se lever avant le soleil était loin de l'intéresser. Un ami de Freddy, ayant assisté à la discussion, s'était empressé de rapporter l'offre d'Omer à celui-ci. « Ah ben, Saint-Crème !» C'était aussitôt choqué le jeune homme, inquiet à l'idée que Tom brise le contrat qui les liait. Toutefois, Freddy n'avait fait semblant de rien, espérant que son beau-frère ne cède pas à la tentation. Il faut dire qu'une clause avait été insérée dans le testament de Marcelin, obligeant Tom à offrir le poste de second à Freddy. Si, et seulement si, ce dernier choisissait de mettre fin à cette entente, il pouvait être remplacé sur la barge. Mais Freddy n'avait pas l'intention de laisser sa place. Tom aurait aimé ne pas devoir respecter cette obligation, mais n'ayant pas le choix, il avait tout de même émis la condition de ne jamais entendre parler de Madeleine. Soulagé de savoir que la saison de pêche se terminait enfin, Freddy sentit un poids quitter ses épaules. Les deux hommes avaient en effet décidé que la neige des derniers jours justifiait le remisage de la barge, ce qui ne déplaisait pas au beau-frère, loin de là. « On a quand même eu un bon été, on peut pas se plaindre », précisa Freddy d'une voix presque guillerette. L'autre acquiesça avant de ramasser ses achats. Il voulait se dépêcher de retourner chez lui puisque sa femme avait besoin de la mélasse. Juste avant de sortir, il lança à Freddy sur un ton neutre. « Demain, on va aller démonter les étals et la cabane à trancher. Puis on va faire la corvée pour monter les barges. »« Parfait. T'amèneras Émile. Il sera pas trop. »« D'accord. » Freddy n'eut pas le temps de donner son avis sur la question que son beau-frère était sorti du magasin. Le jeune homme commençait à craindre qu'Émile ne devienne un peu trop indispensable pour Tom. Depuis un mois, à quelques occasions déjà, son beau-frère avait insisté pour que le costaud les accompagne lorsqu'ils devaient accomplir des tâches plus exigeantes. Freddy se retint d'aller retrouver Tom près de la porte du commerce pour lui faire la remarque qu'Émile n'était pas à son service. De toute manière, ça achève, songea-t-il avec une moue de dépit. Émile s'en retourne bientôt à Gaspé, puis c'est vrai que son aide sera appréciée pour remiser les bateaux. Car pour aller les barges sur la plage de Galais, tous les villageois disponibles mettaient l'épaule à la roue. Les pêcheurs enlevaient d'abord le lest, puis ils fixaient un câble à la quille. Cette dernière glissait sur une rampe faite de deux longs billots installés perpendiculairement à la rive et reliés entre eux par d'autres morceaux de bois plus petits. Les barges étaient virées sans dessus-dessous et bloquées pour que les bouts de l'étrave et de l'étambot ne touchent pas le sol. Il s'agissait d'un gros travail de bras et par la suite, les familles pouvaient célébrer officiellement la fin de la pêche. « On fêtera pas fort cette année », réalisa Freddy quand son beau-frère eut disparu de sa vue. « Je pense que Tom a juste hâte de plus me voir tous les jours. Ça fait qu'on n'est pas prêt de prendre une coupe de verre de bagosse ensemble. »« Ah ben tant pis. » Débiné, le pêcheur vint poursuivre le même chemin que le grand blond quand il changea d'avis. Freddy retourna plutôt vers le fond du magasin.
passa l'arche menant dans la seconde partie et avisa la femme de Gaston installée sur une grosse chaise de coiffeur. « Rita, as-tu 2 minutes pour me couper cette touffe? » rigola le jeune homme en ôtant sa casquette de laine. La femme du marchand souleva sa délicate silhouette et prit appui sur la chaise pour éviter de tomber. Affaiblie par une maladie pulmonaire depuis plusieurs années, Rita Taillefer faisait de fréquentes visites à l'hôpital de Gaspé, mais elle était actuellement dans une période de convalescence. Revenue au village à la fin de l'année précédente, elle n'avait pas eu de rechute et reprenait un peu de force. Auparavant, cette femme discrète avait servi au magasin, comme ses 3 enfants. Mais avec ses poumons qui ne fonctionnaient plus qu'à 40%, son époux avait accepté à contre-cœur qu'elle ne consacre plus son temps qu'au petit salon de coiffure installé dans une minuscule pièce au fond du magasin. D'abord très mal à l'aise à l'idée que des hommes soient coiffés par son épouse, Gaston s'était rendu aux arguments de ses enfants, qui affirmaient que dans la grande ville, les coiffeuses pouvaient aussi couper les cheveux de la clientèle masculine, pas juste les barbiers. De toute manière, comme Rita n'était plus en mesure de se déplacer rapidement et qu'elle avait tendance à déprimer de plus en plus, il lui fallait s'occuper, avait jugé Gaston. Alors, lorsque son moral et son physique le lui permettaient, la femme s'improvisait coiffeuse. Les lunettes sur le bout du nez, Rita passa une main dans ses boucles grises bien drues et fit signe à Freddy. « Assieds-toi le jeune, je vais voir ce que je peux faire. Je peux essayer de te rendre présentable. » Satisfait, le jeune homme lança sa casquette sur le meuble près de la chaise et s'y installa en soupirant de contentement. La vie était généreuse pour lui. Une bonne saison de pêche, un bébé adorable, une femme attentionnée, oui, tout allait bien. Pendant que Rita effilait son ciseau sur la longue lanière de cuir qui pendait à la table, Freddy jasa de tout et de rien avec bonne humeur. De son pas vacillant, la femme s'avança jusqu'à lui avec son outil et commença la coupe. Après un moment sans dire un mot, Rita se pencha un peu et murmura « Je suis contente de voir qu'il t'en veut plus. »« M'en veux plus ?» demanda distraitement le jeune homme qui sentait la tension se relâcher dans ses épaules alors que la femme relevait doucement les mèches de ses cheveux. « Bien, Tom, pour ce qui est arrivé à Éloi. » « Ah, ouais. » Soupirant intérieurement, Freddy se dit qu'il n'avait pas envie de reparler de l'accident. Les villageois avaient l'habitude de se mêler de tout, et s'il était du genre à ne pas détester les rumeurs et les potins auparavant, depuis que sa famille était devenue omniprésente dans les discussions de Lance à la joie, il trouvait la situation beaucoup moins passionnante. Alors il haussa ses épaules et répondit « Tout est OK. Peux-tu me faire la barbe aussi, Rita? » demanda-t-il pour changer de sujet. « Certain. » Après une demi-heure, Freddy se releva avec satisfaction pour se regarder dans le miroir rond que lui tendait la femme. Ses cheveux bruns étaient coupés bien ras et son menton dégagé de tous les poils oubliés lors de ses rasages rapides. Remerciant Rita, qui inscrivit le montant de la coupe, 1,25 $, dans le registre, il traversa de l'autre côté du magasin. Devant le comptoir de droite, il hésita un long moment. La jeune Rosalie, qui l'avait toujours trouvé bien beau, se leva d'un bond du tabouret sur lequel elle s'était assise pour compter les rouleaux de fil. Coquet plus que les autres hommes, Freddy avait envie de se gâter un peu. « Après tout, pensa-t-il, je mérite bien un petit bonus après la saison que je viens de passer. J'ai jamais eu autant de misère à converser avec quelqu'un. » Le jeune pêcheur espérait vraiment que Tom mettrait de l'eau dans son vin à partir de la saison 1935, car s'il fallait qu'il passe tout l'été suivant à ne pas pouvoir parler de son fils ou de sa femme, Freddy n'était pas certain de vouloir continuer à le seconder. « Oui, Freddy? » La jolie brune de 18 ans lui fit un sourire éclatant, et l'homme pointa un chapeau de feutre noir au bord roulé sur la tablette du milieu. « Salut, Rosalie. J'ai besoin d'un nouveau chapeau. « Montre-moi donc celui-là. » Rosalie s'empressa de prendre le couvre-chef pour le tendre au client. Freddy souleva l'objet pour le mettre à la hauteur de ses yeux et l'observer sous tous ses angles. Il savait bien que cet achat était ridicule, mais au plus profond de lui-même, il se disait qu'il le méritait. Alors il le posa sur ses cheveux frais coupés et s'observa dans le miroir sur le comptoir un bon moment. « Qu'est-ce que t'en penses, Rosalie? » demanda-t-il enfin avec orgueil. « Ça te va bien? T'es pas mal beau avec ça? » susurra la jeune sur un ton mielleux.
La jeune femme essuya ses mains sur son tablier blanc en jetant un regard en direction de ses frères, de l'autre côté de la large allée centrale. Puis elle se pencha pour replacer le chapeau sur la tête de Freddy. Ce faisant, elle positionna sa poitrine assez volumineuse près de la main de l'homme, qui la retira en rougissant un peu. Il évita de fixer la blouse de coton blanc qui s'était légèrement entr'ouverte. « Là, comme ça, c'est mieux », annonça la vendeuse en se reculant lentement. « Je pense que je vais l'acheter. Moi, je le veux. Il est combien ?» Rosalie tendit les mains pour reprendre le chapeau et le tourna pour vérifier le prix à l'intérieur. 3,5 piastres. « Oui, c'est pas donné. » L'homme grimaça en hésitant. Ils avaient beau ne pas être endettés, sa femme ne verrait sûrement pas d'un bon œil un tel achat. « Mais oublie pas qu'il est doublé en fourrure. Regarde !» insista Rosalie, qui avait envie que le jeune poirier reste encore un peu près d'elle. Freddy reprit l'objet convoité et le tourna de tous les bords. D'un côté, il se disait qu'il le méritait, et de l'autre, il savait que Madeleine jugerait cette dépense ridicule. Comme d'habitude, il éprouvait un sentiment d'injustice à la pensée que s'il pouvait vivre de manière plus aisée que certains pêcheurs, c'était parce qu'il s'était marié avec elle. Mais de toute manière, ce qui appartenait à son épouse était sien. Constatant son hésitation, Rosalie prit un casque brun en pièces d'agneau castorisé et annonça « Si c'est trop cher, tu peux prendre celui-ci. Il est juste 1,5 piastres. » Freddy jeta à peine un coup d'œil sur le chapeau de fourrure noué sur le dessus avant de tirer la langue de dépit. Il n'avait pas besoin d'un autre chapeau d'habitant. Il tapota du pied avant de se décider. « Non, je vais prendre l'autre. Mets-le sur ma note. » Minaudant comme seule une jeune fille savait le faire, Rosalie ajouta « Tu vas être très élégant à l'église avec ça. » « Merci bien, Rosalie. » Fier comme un paon, Freddy mit le chapeau sur sa tête et s'éloigna vers la sortie. Ses grosses bottes à crampons de fer faisaient un bruit sonore sur le plancher de bois lorsqu'il se déplaçait. Mais pour une rare fois depuis la noyade de son neveu, il n'avait qu'eure des regards qui le suivirent jusqu'à la porte. « Je le mérite bien », murmura-t-il en sortant dans l'air frais, pressé d'aller montrer son achat aux femmes de sa maison.